avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
Bien bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'heure CV. Reg qui a décidé de quitter le micro un peu d'avance. Il s'est dit fatigué après la victoire d'hier. Du bout en feu, hein? L'équipe qui affrontait Boulevard 102 sur la glace du centre de glace Intact Assurance. Félicitations, c'était notre équipe. On prenait pour eux parce que ben on trouvait que la destitution, c'était pas illégal, mais non gracieuse du poste de Reg comme coach l'an dernier au sein de l'équipe de Boulevard 102.1 au profit de Denis Gravel était disgracieuse justement. Alors, bon, Reg qui a coaché le bout en feu, qui a gagné. Qu'est-ce qu'on lit là-dedans? C'est que Reg est un excellent coach. Et voilà, il était fatigué, il a décidé de quitter l'émission Reg Again ce matin un peu d'avance, soit 30 secondes d'avance. Puis nous, on est ensemble à 10h01 dans l'heure CV. Bienvenue, merci d'être là. Je ne sais pas si vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, de mauvaise humeur, vous êtes stressé, peu importe. Bien, c'est le temps de vos salutations au 418-971-1021. Mon nom est Pascal, Pascal CV. Voilà pourquoi ça s'appelle l'heure CV. On la passe ensemble ce vendredi 22 mars. Printemps qui, finalement, a des looks d'hiver avec la température qui est quand même assez froide, moins 14 à l'extérieur. Ouh, ça nous gifle au visage parce que oui, on ressent plutôt même moins 16, là, je dirais, avec le facteur éolien. Ce matin, le démarreur à distance était bien heureux d'être quelque chose d'utile, hein, ce qui a été un petit peu moins au courant des dernières semaines. Je souhaite que vous passez jusqu'à maintenant une superbe journée. Il y a plein de choses hein, qu'on aura à revoir aujourd'hui. Entre autres, hier, quand on parlait à Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique, on prétendait qu'il y avait eu certains problèmes importants du côté de la billetterie du Festival d'été de Québec. C'est sorti en journée hier. Donc, bravo Patrick, tu gardes ton poste de chroniqueur ici dans leur CV. Salutations à ceux que j'ai rencontrés hier et que toute l'équipe de Boulevard a rencontré aussi parce que c'était ouvert. Vous le savez, on vous invitait à venir voir cette game de hockey-là. Et il y avait beaucoup de gens de Twitch qui étaient présents et je suis contente d'avoir mis des visages sur les noms. Enfin, j'ai pu rencontrer Old My Beer à Cafred qui était sur place. André, je le manquais toujours à chaque sortie de station. Mais c'est ça, Twitch, une communauté qui s'est créée au www.twitch.tv/BLVD/FM avec les caméras en studio puis avec les gens qui se saluent et se parlent à tous les jours pendant les émissions. Puis c'était beau de vous voir aussi vous rassembler une fois sur place, vous trouver puis de vous piquer une jasette. Alors, je salue Hélène aussi qui était là, bien sûr Nicolas qui était là, The Bridge qui était là. Alors, ça, c'est tout leur pseudo. Mais venez vous brancher avec nous, c'est toujours un bonheur de jaser en direct avec vous pendant l'émission. On va commencer ça tranquillement avec Rouge Pompier. Vendredi, ça tombe bien, ça va de soi, c'est vendredi. On va s'installer confortablement. Merci d'avoir choisi leur CV. À tout de suite. Rouge Pompier avec Vendredi sur les ondes de Boulevard 102.1. Les fuites informatiques, les problèmes informatiques qu'on a vécu du côté du Festival d'été de Québec font encore jaser ce matin. Il y a beaucoup de gens qui cherchent toujours une passe pour y aller. Le plus cher payé là, jusqu'à maintenant de ce que j'ai vu en revente, c'est 500$. Il y a quelqu'un qui a acheté une passe à 500$ parce qu'il était bien tanné de chercher puis que quelqu'un en vendait une. Finalement, il s'est fait de l'argent assurément avec cet achat-là. Avez-vous pire que ça? Je dis pire parce que, bon, moi, vous le savez, je trouve que c'est un peu coyote puant là, comme façon de faire. Malgré, écoutez, si vous voulez être entrepreneur, c'est votre choix. Mais j'ose croire que ça ne va pas faire en sorte qu'on va perdre ces bons prix-là au Festival d'été de Québec parce qu'on est chanceux. On est très, très chanceux d'avoir des artistes internationaux comme ça qui passent dans la ville à faible prix. Il y en a qui ne sont pas capables sinon d'aller voir des spectacles et ça, ben, c'est toujours leur bonbon là, estival, leur bonheur estival. Faut que ça reste comme ça. Hein? On souhaite ça. Travailleurs temporaires, ça fait beaucoup jaser aujourd'hui aussi. Il y a près de 155 000 travailleurs qualifiés qui veulent immigrer au Québec et c'est complexe. L'an dernier, il y a eu la réforme des programmes d'immigration du gouvernement Legault et ça n'a pas freiné le désir de beaucoup de travailleurs qualifiés de venir s'établir au Québec avec les chiffres que je viens de vous donner qui ont été rendus publics par Radio-Canada ce matin. C'est des données très importantes et détaillées du profil aussi sociodémographique de ces gens-là qui ont été livrés. Ce qu'on dit, c'est que c'est des gens qui ont un intérêt actif, qui souhaitent venir ici. Entre autres, dans les plus intéressés, en ordre décroissant, il y a les Algériens. Ils semblent les plus intéressés là, par le Québec. On a environ 20 000 demandes d'intérêt. Les Camerounais à 17 000 demandes d'intérêt. Les Marocains à 14 000 demandes d'intérêt. Sénégalais aussi, 13 000 demandes d'intérêt. Les Égyptiens, pardon, 10 000 demandes d'intérêt. Et les Syriens aussi, autour de 10 000. Ensuite, ben là, on continue, mais ça va avec peut-être 8 000 pour des Tunisiens, des Ivoiriens, on est à 6 000 personnes. Des Français, j'aurais pensé que ce serait vraiment plus haut parce que dans les nombreuses personnes que j'ai rencontrées qui venaient de l'Europe dans les dernières années, c'était des Français qui avaient souhaité immigrer parce que, ben, tout ce qui était contexte politique ou géopolitique et surtout économique, là, ça ne les plaisait plus. Donc, ils immigraient ici au Québec pour le français, pour la façon de voir les choses, pour les valeurs. À 6 000 demandes d'intérêt versus 20 000, par exemple, pour l'Algérie. Je suis quand même assez surprise. Des Indiens aussi à 6 000 demandes d'intérêt. Des Togolais, Haïtiens. Mais ensuite, bon, une longue série de pays d'origine qui ont généré moins de 2 000 déclarations d'intérêt. Mais quand même, c'est des données qui sont venues entre les mains de Radio-Canada par une demande d'accès à l'information. Elle est disponible sur le site web du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Mais ça montre que le Québec continue d'être attrayant. Le hic, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir des politiques d'immigration fortes et d'inclusion aussi et de participation économique aussi qui se valent. C'est un peu le problème. C'est qu'on pourrait avoir une série de changements qui pourraient se voir en société, de la main-d'œuvre, un partage aussi de culture, mais c'est trop complexe en ce moment, la façon de s'en venir au Québec. Puis avec la pénurie de logements, avec la difficulté de reconnaître aussi les acquis de ces gens-là ou encore de faire les ponts, puis les transitions scolaires peut-être pour leur permettre d'être employables dans leur domaine d'expertise, bien, on a encore beaucoup, beaucoup de difficultés. Et on se pose la question dans l'article s'il y a des talents qui sont éventuellement écartés. Les données montrent en fait qu'en ce moment, il y a à peu près 30 000 déclarations d'intérêt actives, là, soit moins de 20 % du total là, qui proviennent de travailleurs qualifiés qui ont fait la démonstration d'un bon niveau de français et d'une employabilité exceptionnelle qui pourrait être de très bonnes candidatures dans le bassin de personnes pour venir travailler ici puis combler de la main-d'œuvre importante, là, justement, qu'on a besoin sur notre marché du travail. Est-ce que vous travaillez avec des gens qui ont immigré ici? Est-ce que vous avez senti qu'on les intégrait d'une bonne manière? Est-ce que vous êtes des citoyens qui intègrent d'une belle manière les gens que vous rencontrez qui ne sont pas nécessairement, dans votre façon de penser, dans votre façon de travailler, est-ce que vous sentez que vous êtes un collègue agréable pour ça dans le partage de ce que les autres peuvent apporter? Il y a des gens qui disent « Je suis dans le domaine du recrutement, les candidatures arrivent de partout, c'est quelque chose en ce moment. » Mélanie sur Twitch qui nous dit ça. Bon, de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, le Québec, elle voit que c'est une mine d'or pour beaucoup d'immigrants qui souhaitent trouver peut-être aussi un refuge, une meilleure vie. Quand je regardais les pays demandeurs, ben, je veux dire, il y en a plusieurs là-dedans qui ne vivent pas avec les conditions que nous on vit. Mais je trouvais ça intéressant. Je trouve que c'est des données importantes, puis ça démontre pourquoi on s'en va lutter aussi, François Legault, du côté d'Ottawa, pour aller chercher des sommes supplémentaires pour l'immigration, d'aller essayer de s'entendre aussi sur, ben, OK, parfait, nous, on en accueille beaucoup, mais qu'est-ce que vous allez faire pour nous aider économiquement à placer ces travailleurs-là dans des logements quand on n'en a même pas pour les gens qui sont déjà sur place, du moins des logements abordables, disons-le comme ça. Mais en tout cas, de ce qu'on on comprend aussi pour les travailleurs temporaires, là, pour cet été, on a des difficultés parce qu'il y a seulement 300 des 4500 travailleurs attendus qui sont arrivés jusqu'à maintenant. Puis normalement, on commence déjà à travailler avec eux dans les champs et à préparer la saison maraîchère, entre autres. Là. Donc, on a une problématique importante à nommer aujourd'hui, en ce qui concerne ces travailleurs temporaires-là, parce que ça peut jouer sur notre alimentation cet été, ça peut jouer sur ce qu'on aura comme récolte aussi. Parce qu'il n'y a pas bien, bien des Québécois qui vont se pencher dans les champs pour ramasser des cailloux, là, c'est, ramasser des roches. Là, je parlais à David Simard, le conjoint de l'Audéry hier, là, il était à la partie de hockey Boulevard, puis tu sais, Il dit, moi, j'en ai besoin de ces travailleurs étrangers-là temporaires parce qu'ils travaillent, puis il n'y a pas une job qu'ils ne veulent pas faire. Puis si on ne les a pas, ben on n'a pas ce qu'on a normalement sur nos tablettes en produits québécois pendant l'été qui fait donc plaisir à tous et chacun. Mais ces gens-là sont essentiels. Il n'y aurait pas vraiment de fraises, là, je pense, dans votre épicerie du coin si jamais il n'y avait pas les travailleurs temporaires qui étaient là. Puis je dis ça parce qu'il y a quelques années, pour un portrait journalistique, j'étais parti un matin de job, là, faire une journée complète avec ces travailleurs temporaires-là dans un champ de fraises à l'île d'Orléans. Ils sont carrément efficaces. Ils travaillent dans la bonne humeur. Je me rappelle, là, c'était un matin où je m'étais levée, il était 3 heures du matin. Vous allez dire, ben, t'as fait ça pendant 10 ans. Oui, je comprends, mais 3 heures du matin pour être dans leur botte à eux quand il pleuvait à Sio. On arrive dans l'autobus, tout le monde embarque, on se fait transporter jusqu'au champ. Moi, j'essaie d'être habillée sur le sens, mais la ferme où j'avais fait le reportage, heureusement, ils les habillaient d'une très bonne manière. En fait, ils étaient au sexe, c'est sûr. Puis eux mettaient leur petite radio, puis ils chantaient leurs chansons. Ils allaient tellement vite, ça n'avait pas de sens. Il y avait minimalement 8 mètres ou 9 mètres de différence entre eux et moi au moment où on a commencé à la même heure, là, tellement qu'eux prenaient de l'avance puis qu'ils me donnaient des techniques pour cueillir les fraises de façon rapide et efficace. Mais ils le faisaient avec le sourire. Puis ça m'a marqué parce que c'est des grosses journées. Moi, j'étais partie même 4 heures avant la fin de la journée pour retourner à la station, ramasser mes clés podio puis être capable de préparer mon reportage pour le lendemain. Mais j'étais fascinée. T'es curvée, t'es tout le temps pliée, tu travailles physiquement, mais aussi mentalement, parce qu'avec les conditions, c'est pas toujours facile. Puis eux le font. C'est ce qui fait en sorte que vous avez, justement, ces fraises-là sur vos tablettes. Fait qu'il faut quand même être dans l'acceptation, puis l'accueil, puis le remerciement aussi de ces gens-là qui se déplacent, oui, pour de meilleures conditions de vie, parce que c'est intéressant. Après 2 étés, là, on est en 2018 peut-être, là, à ce moment-là, mais après 2 étés au Québec, à travailler comme, justement, travailleur temporaire, pour certains Mexicains à qui je parlais, devenaient les mieux nantis de leur village. Mais ça venait aussi avec des contraintes, parce que oui, bon, leurs enfants pouvaient aller à l'école avec cet argent-là, pouvaient financer une meilleure maison, pouvaient avoir de plus grands rêves, habiller, tu sais, c'est les besoins de base, là, habiller leur famille et autres. En 2 ans, devenaient les plus nantis de leur village. Sauf que ça se passait, le mot se passait. Puis c'était des transferts d'argent d'une manière bancaire, là, où tu t'en vas au guichet et autres. Puis il y avait aussi des menaces. Donc, des gens qui ne sont pas nécessairement de mauvaises personnes, mais des gens qui deviennent de mauvaises personnes ou font de mauvais choix parce qu'ils sont dans une détresse économique, financière, veulent sauver leur famille, qui allaient justement menacer la femme de ces travailleurs-là qui étaient au Québec et les enfants, parfois avec des armes, en cognant à la maison parce qu'ils savaient que le mari était au Québec en train de ramasser de l'argent pour offrir un meilleur futur à leur famille. Fait que ça avait ces problématiques-là. Il y en a un des travailleurs qui retournait dans son pays justement pour s'assurer d'aller protéger sa famille. Ça vient avec des contraintes, quand aussi il y a le positif dans tout ça, mais je les imaginais autre que d'une manière isolée parce que ils sont toujours ensemble, ils vivent dans les mêmes maisons, ils vont magasiner leur nourriture dans certaines épiceries mexicaines même qui ont poussé là, dans certains secteurs de la ville de Québec parce qu'il y a eu des affaires à faire avec eux. Ils vont faire leur commission, tout le monde ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et c'est là où je me disais, ah, il y a quelque chose qui nous manque de les côtoyer. Il y a quelque chose parce qu'on ne veut pas non plus que ça devienne des gens qui n'ont pas accès à la culture québécoise, aux échanges des Québécois. En même temps, ils travaillent tellement. Ils se couchent le soir, sont fatigués, ils se lèvent le lendemain, ça recommence. C'est un coup à donner, un coup de travail à donner. Mais ça m'avait fasciné de voir qu'on n'est pas intégré avec eux. Puis même des fois, on a un petit, une réserve, je veux dire comme ça. On se permet pour une raison que j'ignore, ou un manque d'accessibilité, le langage aussi, des fois, l'espagnol n'est pas très accessible, mais il y a une distance qui se crée et qui fait en sorte que, puis j'ai entendu ça de l'agriculteur en question qui dit, c'est comme si parfois on se plaçait au-delà de ces gens-là qui finalement, oui, viennent pour d'abord et avant tout leurs conditions personnelles, mais qui ont un apport extrêmement sous-évalué dans notre société puis dans notre alimentaire, dans notre industrie maraîchère, malgré tout. T'sais, on les regarde pas, on les remercie pas. En même temps, je comprends que vous n'allez pas remercier n'importe quel immigrant qui arrive ici, puis vous allez en croyant que d'une manière ou d'une autre, ils travaillent justement pour nous aider dans certains secteurs d'activité. Puis en même temps, je dis ça, puis en réfléchissant avec mon deuxième cerveau pendant que je vous parle, je me dis, ben oui, faut les saluer pour les intégrer, peu importe ce qu'ils font. Mais je trouvais ça triste en même temps, parce que c'est comme si on s'élevait au-dessus d'eux. T'sais. C'est des travailleurs temporaires. Ah, c'est les Mexicains dans les champs. Ah, c'est les Guatémaltèques. Puis je le vois beaucoup, même dans ma clientèle. Puis souvent, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire côtoyer ces travailleurs-là avec ma clientèle pour un peu changer les choses, ou du moins faire comprendre que ce sont des humains à juste part. Encore là, tout le monde est différent. Tout le monde agit d'une manière qui est différente. Mais je trouvais la réflexion intéressante. Peut-être que l'été prochain ou dans les prochaines semaines, lorsqu'ils vont arriver, on voit que c'est plus difficile qu'ils arrivent en grande quantité ces temps-ci, mais quand ils vont arriver pour nous donner un coup de main dans nos champs, on va les saluer dans vos petits quartiers, dans vos petites boutiques maraîchères, je ne sais pas, un petit sourire, un petit bonjour. Ça peut changer aussi la trame narrative de leur passage ici, surtout s'ils vivent des choses difficiles du côté du Mexique ou du Guatemala, hein, avec leur famille. Je ne sais pas, une petite réflexion comme ça. Les Cowboys fringants à Boulevard 101 Marine Marchande. Vous écoutez leur CV.
Aujourd'hui, j'ai une marchande, oui, je me suis engagé dans la marine. Marchande.
Les Cowboys fringants, Boulevard 102.1. Avant de la partir, la chanson, j'étais comme, ah, tu sais, est-ce que je suis dans le mood de la marine marchande des Cowboys fringants? Je pense que j'ai dansé tout le long en vous jasant sur Twitch. Puis on a fait un petit aparté intéressant sur Twitch dans les dernières minutes parce qu'on parlait de la gang d'hier de Boulevard 102.1 que Boulevard a perdu au profit du bout en feu. Félicitations aux auditeurs qui avaient gagné leur place pour venir affronter les hockeyeurs de la station. Et c'est un mélange d'animateurs, un mélange de représentants et autres. Mais on jasait justement de cette soirée-là qui a été vraiment le fun. Vous pouvez aller voir nos réseaux sociaux. On a mis en masse de photos, de vidéos pour vous montrer ça a l'air de quoi, parce que ce sera une classique annuelle. On est bien contents de faire ça et d'organiser ça. Mais il y avait une réflexion qu'on a eue après la partie, puis ça concerne les douches. Les fameuses douches de gars après une partie de hockey. Pour une raison X, on est parti à rire en disant « OK, pour les collègues de Boulevard, vous avez tous pris votre douche ensemble. » Comme d'habitude, là, quand on joue une partie de hockey, on se lave, là, tous les gars. Mais on prend pas le temps de se regarder, on se lave. C'est pas mal, en fait, drôlement vu si quelqu'un prend trop de temps, là, puis qu'il est lavé trois fois, puis qu'il reste encore dans la douche. Là. Mais pour nous, femmes de la station, on trouve ça toujours drôle parce que c'est vraiment pas dans notre façon de faire. Si, même, puis il disait, si vous allez au gym, vous autres, vous lavez pas après, on se lave à la maison pour beaucoup. Sinon, nous, on a des douches privées. C'est un peu plus pudique. Puis là, il y avait le débat générationnel aussi. Les gars qui disaient, les hommes un peu plus âgés, souvent quand on les croise, eux autres, ils prennent le temps de se laver comme il faut et ils se penchent. Il n'y a pas vraiment de gêne là, sur des certains angles. Il n'y a pas de gêne partout. Puis, j'en disais avec la gang de Twitch pendant la marine marchande des Cowboys fringants, puis je me disais, après, on a eu une conversation. Là, c'est tous les collègues qui se sont vus. C'est pas la gang... C'est pas la gang, mettons, d'hockey qui se sont vus. Puis les gars, ça faisait pas de différence. Mais si Matt Marcotte, par exemple, s'en va chez Reg Laplanche une journée, puis les deux, cette journée-là, ont besoin de se laver. Ils vont pas se laver dans la même douche en même temps. Ils vont prendre leur douche chacun leur tour. Fait que c'est là où on avait une incompréhension. D'à quel point le monde du hockey, c'est un monde différent. Je vous répète, si Matt Marcotte s'en va chez Reg Laplanche un après-midi, il fait chaud, ils ont besoin de se laver. Vont-ils aller dans la douche en même temps?
La Fondation
RCV. Avec Pascal CV.
Oui, puis on est bien contents. On va recevoir justement Marc Nadeau de Passe-temps 3000 tantôt dans Marceau le midi. Un vrai passionné qui va vous faire passer du bon temps. Passe-temps 3000, là, c'est même si vous n'avez pas besoin d'aller acheter quelque chose, allez en boutique, allez voir ça. C'est un véritable musée en soi. Il y a un hélicoptère sur place. Il y a Goldorak, grandeur presque nature. Il y a des choses à découvrir. Ça n'a aucun sens. C'est la meilleure qualité en ville. Passe-temps 3000. Marc Nadeau, tantôt avec nous dans Marceau le midi. En ce vendredi, c'est du soleil. Oui, gros soleil à l'extérieur. Mais quand il fait beau, il fait froid ces semaines-ci. Moins 13 degrés, c'est ce qu'on a à l'extérieur. On ressent même moins 16, là, pour vrai, avec le petit vent, là, c'est glacial. Moins 3, c'est le maximum pour la journée. Moins 15 ce soir et cette nuit. Demain, samedi, faible neige qui va tomber du ciel avec un moins 5 comme maximum. Et pour la nuit, moins 14. Je vous souhaite de vous coller en masse avant le retour du soleil qui est attendu dimanche. Lundi, et mardi prochain avec des températures beaucoup plus printanières. Là, on retombe au-dessus de zéro dès dimanche avec 1 degré, lundi 3 degrés et mardi 4 degrés. La météo est très clémente à Québec ces jours-ci, sauf le petit soubresaut qu'on a eu au courant des derniers jours. Le printemps va faire du bien avec les températures de terrasse. Oui, avec un petit foulard, une sucre, mais tu sais, une petite terrasse. Ils ont ouvert, certaines terrasses ont ouvertes dans les derniers jours pour refermer ensuite avec la bordée de neige qu'on a reçue. Mais là, on va les réouvrir là, dans les prochaines semaines. Je faisais des blagues avec les douches communes de gars après une partie de hockey. Puis il y a beaucoup d'hommes qui ont répondu, oui, ça c'est partout en fait. C'est au baseball, c'est dans des complexes sportifs et autres. Puis il y a certains hommes qui se questionnaient, c'est vrai que c'est bizarre, pourquoi nous, est-ce qu'on prend des douches commune, puis les femmes sont plutôt fermées, ces douches-là. Et la radio étant la radio, quelqu'un a écrit « Ça n'a aucun rapport de comparer un vestiaire avec des douches communes et une maison avec une simple douche. » Parce que je faisais la joke que si Mathieu Marcotte allait chez Reg Laplanche, que les deux avaient besoin de prendre une douche, est-ce qu'ils vont aller dans la douche en même temps? Bon, trêve de plaisanterie douteuse. Dans les nouvelles de dernière heure, et ça, c'est vraiment pas drôle, à Chapais, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 5 morts qui viennent d'être annoncés vu un accident dans la communauté de Waswanipi. J'espère bien le dire, mais il y a une collision entre une camionnette et une fourgonnette qui est arrivée en début d'après-midi hier sur la route 113 et à la sortie de Chapais dans le nord du Québec. Là, et 5 personnes ont perdu la vie. On en parle aujourd'hui parce que on apprend finalement l'identité de ces gens-là. 4 étaient originaires de la communauté Cree de Waswanipi. Et la Sûreté du Québec, justement, a donné un petit peu plus d'informations. Mais la camionnette était conduite par un homme de 45 ans et circulait en direction de Chibougamau avant de percuter la fourgonnette et où se trouvaient à son bord 3 hommes âgés de 47, 63 et 69 ans et une femme de 60 ans. Toutes nos pensées sont avec les gens implorés aujourd'hui. La tempête qu'on a vécue dans les derniers jours, en fait, hier, c'était fascinant de voir la rive sud sous la neige, mais une bonne accumulation de neige. Là. Il y en a qui allaient en pied, en fait, et même en plusieurs pouces pour calculer la neige qui était tombée du côté de la rive sud. Et ça bloquait une cinquantaine d'élèves à l'école. C'est un peu le grand rêve hein, de n'importe qui s'en va à l'école quand t'es jeune, un genre de journée comme ce style de journée-là. Une cinquantaine d'élèves et du personnel, bien sûr, de 3 écoles du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud dans Chaudière-Appalaches qui ont passé la nuit dernière là, à l'école en raison des conditions routières difficiles. L'école primaire des Hauts-Sommets à Sainte-Perpétue, l'école primaire Saint-Joseph et l'école secondaire de la Rencontre à Saint-Pamphile ont hébergé des élèves. C'est ce qu'on a appris de la porte-parole du Centre de services scolaires un peu plus tôt ce matin, puis on a parlé que les élèves ont dû essayer de dormir avec quelques sacs de couchage qu'on a trouvés dans l'école. On a fait à souper là-bas, même le déjeuner, parce que c'était trop dangereux d'utiliser les réseaux routiers. Ils ont eu du fun. C'est ce qu'on dit. Les élèves ont eu du fun. Écoutez, ils se sont pas ennuyés. Le gymnase est resté ouvert pour eux. Il y a eu des compétitions de génie en herbe qui ont été organisées. Tout un souvenir pour ces jeunes-là qui vont certainement en parler pendant encore plusieurs années. On voulait tous vivre ça quand on était jeunes, rester à l'école, une genre de petite nuit spectaculaire. Je me rappelle que dans les camps de jour, il y avait ça une fois par année, du moins dans mon camp de jour, il y avait une nuit avec les moniteurs puis avec les amis, puis on apportait nos sacs de couchage, puis il y avait des genres d'activités où on se couchait un peu plus tard, puis des bonbons, puis des chips, puis ci, puis ça. Puis ça faisait le bonheur de tout le monde. Mais là, c'est arrivé de manière impromptue du côté de la Rive-Sud hier, vu la fameuse tempête qu'on n'a pas eu, nous, vraiment, sur la Rive-Nord. Quelques accumulations, mais sur la Rive-Sud, ils y ont goûté. Le bar L'Extase à Lévis, pendant qu'on est sur la Rive-Sud, eh bien, le proprio a été arrêté pour trafic et possession d'armes prohibées. C'est un bar assez connu, L'Extase. Justement, il a été arrêté pour une affaire de trafic de stupéfiants, possession d'armes prohibées, 2 autres complices présumés également. Il fait face à un mandat d'arrestation. C'est Brian Marcoux. Il a été arrêté hier à son domicile. Pendant l'arrestation, on dit que les policiers ont aperçu une arme automatique avec des chargeurs, une veste par balle. Donc, ils ont demandé un autre mandat pour perquisitionner l'endroit au complet. Brian Marcoux a comparu hier, jour même, pour trafic de stupéfiants, possession illégale d'une arme à feu à autorisation restreinte chargée, possession d'un dispositif prohibé et possession d'une arme prohibée. Dans la foulée, là, Maxime Boucher-Labrec, qui est un membre du groupe de motards criminalisés les Dark Souls, c'est le club école des Hells Angels, c'est eux qui ont la fameuse promotion vidéo, clip, là, Dark Souls, Dark Side, on a fait un pacte avec le diable. Allez voir ça sur YouTube si vous ne me suivez pas. Ce que je viens de vous dire là existe. Et Derek Samuel aussi a été mis en état d'arrestation pour des chefs d'accusation similaires. Accusations qui sont survenus dans le cadre de cette vaste opération-là du service de police de la ville de Lévis qui remonte au mois de juin dernier, dans laquelle il y avait eu déjà 5 perquisitions. Donc, le corps de police avait... notamment dans la mire d'autres personnes. Puis on a saisi les pistolets, une arme longue de calibre 12, une arme à impulsion électrique, 6 véhicules et plusieurs biens infractionnels, en plus d'avoir 300 grammes de cocaïne, 800 grammes d'héroïne, une presse à cocaïne et des milliers de dollars en argent canadien de ramasser avec cette perquisition-là. Groupe tactique d'intervention du service de police de la Ville de Québec, Sûreté du Québec, ont prêté main forte dans ce dossier-là à la police de Lévis hier. Il y a une vingtaine de Québécois aussi qui ont été arrêtés, mais cette fois-ci en lien avec des vols de véhicules, et ça s'est fait en Ontario en 2024. Donc, depuis les derniers mois, les premiers mois là, de 2024, il y a un nombre, vous savez, important de voitures qui ont été volées et c'est en constante augmentation dans le Grand Toronto, disons-le comme ça. Et le nombre d'arrestations aussi. Mais il y a des Québécois qui sont pour quelque chose. Il y a un décompte qui a été fait par Radio-Canada et dans des communiqués là, de différents corps policiers, on voit qu'il y a une vingtaine de Québécois qui auraient été arrêtés en lien avec des vols de voitures dans la région de Toronto seulement en 2024, une vingtaine. Par exemple, il y a un Montréalais de 21 ans qui a été arrêté par la police régionale de Peel puis qui est accusé d'avoir volé à main armée un véhicule durant un essai routier chez un concessionnaire de luxe à Brampton le 7 mars. J'imagine la scène, là. Le gars arrive, c'est un faux client, il est avec justement quelqu'un du concessionnaire, puis il dit, un peu comme à la Grand Theft Auto, c'est un peu fascinant et déplorable, là, disons-le. Puis il dit, ah, attends-toi, moi je le vole, le véhicule, tu sors, puis je m'en vais. Arme à la main, il aurait forcé le vendeur sur le siège passager à sortir du véhicule pour finalement s'enfuir avec l'auto. Il a été retrouvé par la police, heureusement, mais ça a été une tactique utilisée par un de ces Québécois-là qui fait du vol de véhicule. Et on a qualifié, en fait, la région de Peel. Ça comprend les villes du Mississauga, Brampton puis Caledon, de capitale nationale du vol d'automobile. Je pense que dans un palmarès, c'est pas mal le titre que tu ne veux pas. Et ben, disons-le, là, on va continuer de mettre la main au collet de tous les suspects qu'on peut intercepter dans cette grande problématique de société-là. 34 suspects, juste à Montréal, qui ont été aussi interceptés dans les vols de véhicules. Puis c'est 10 dossiers, là, mais je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ça nous est arrivé un peu plus près de nous ici à Boulevard 101 avec le chroniqueur Sylvain Dancos qui s'est fait voler sa voiture en une seule fin de semaine de visite à Montréal pour aller voir sa famille. C'est fascinant. Moi, ça me fascine. Il avait laissé sa voiture comme ça dans la rue entre deux voitures. Il se lève le matin, il prend son petit café, regarde par la fenêtre puis dit « Voyons, il me semble que j'avais stationné mon auto là. Voyons, je suis pas mal sûr que je l'avais stationné. Je comprends qu'on a bu une bouteille de vin, mais je suis pas mal sûr. Sort dehors en pantoufles avec son petit pyjama. » Puis officiellement, il la trouve plus, sa voiture. Aussi facile et rapide que ça, voiture volatilisée, gosse d'un papier d'assurance, appelle les assurances, essaie de s'en sortir, puis finalement devra racheter une autre voiture parce qu'il y a les petits sacripants de Perlin et Pompon qui sont partis avec, vu toute cette façon de faire-là. Mais pour lui, c'était pas à la Grand Theft Auto, le vol de voiture. Hey, très heureuse de vous offrir Jean Leloup. Une des meilleures, je pense. Êtes-vous d'accord? Jean Leloup, là, prenez le temps d'aller lire les paroles de ses chansons. C'est un grand poète, malgré qu'il soit mêlé une fois de temps en temps. On ne peut pas dire qu'il ne nous a pas offert quelque chose d'assez exceptionnel à travers sa carrière. La Vallée des réputations à Boulevard 101.
Leur CV avec Pascal CV.
J'en ai surpris quelques-uns avec ma petite phrase du vidéoclip, en fait, des Dark Souls. Mais tu sais, je ne veux pas faire de la promotion pour ce groupe-là. C'est juste que ça m'avait fasciné il y a 7 ans de découvrir qu'il y avait une... Bien là, le vidéoclip, je ne le trouve plus, mais j'ai trouvé la chanson. C'est comme si on avait enlevé les images, peut-être parce qu'on voyait des visages là, dans le dit vidéoclip. Là. Mais Fou Furieux, qui est genre un rapper... X, je vais dire ça comme ça, un rapper X qui avait fait, oui, vraiment une chanson pour les Dark Souls, le club école des Hells Angels. Là. Puis je vais vous faire entendre, parce qu'il y en a qui ne me croyaient pas, un petit bout, mais c'est ça, c'est pas de la promotion pour le groupe, là, le groupe puis le chanteur. Là.
Maintenant respecte le masque puis la tête de mort.
C'était ça, là. Mais ça m'avait fasciné il y a 7 ans. Je me dis, voyons donc, je comprends qu'on a eu puis YMP de 50 Cent qui s'en vient au Festival d'été de Québec, là. Mais on est très loin de Carmen Campagne, là. Puis on est en train de faire de l'autopromotion avec quelqu'un qui crie, voyons, c'est donc pas mauvais. Je suis quand même d'accord avec vous, mais je veux pas avoir de représailles. En tout cas, je voulais pas faire d'autopromotion, mais vous m'avez pas cru quand je vous l'avais dit. Puis il y a des niaiseries comme ça qui me restent en tête et je ne sais pas pourquoi. Bon, je voulais vous parler d'un trouble qui m'a fait beaucoup rire, puis probablement que vous allez pouvoir soit vous identifier à ou identifier quelqu'un que vous connaissez à. Si vous achetez de façon compulsive, vous êtes peut-être oniomane, OK? C'est un trouble très spécifique et traité même en tant que tel. Là, ça fait partie des addictions sans substance. Ça vous concerne si vous êtes en crise des fois de dépenses. Genre, puis là, je sais, vous allez me dire, oui, mais dans la bipolarité, ça peut venir avec, soit que quand tu es dans un gros high, tu peux vouloir acheter plein de choses puis pas penser à tes dépenses, mais on n'est pas là-dedans, OK? Mais si des fois vous avez des crises, vous dépensez des centaines de dollars en quelques heures seulement, là, vous êtes en grosse je veux pas dire manie, mais en grosse situation de commercialisation puis d'achat sur Amazon, par exemple, ça se peut que vous êtes oniomane. L'oniomanie ou l'addiction comportementale aux achats compulsifs et répétés, ça touche entre, c'est beaucoup, moi, je trouve, malgré tout, 6 et 7 des personnes dans le monde. Et ça a l'appellation d'un trouble qui a une contraction avec des termes onios, ça veut dire à vendre en grec ancien, et mania, qui signifie la folie. Donc, vous êtes des fous d'achat. Et c'est classé parmi les addictions sans substance, comme c'est par exemple des jeux d'argent, par exemple, ou le sexe. Et c'est considéré comme une maladie depuis les années 90. Donc, peut-être avec toute cette industrialisation-là, la commercialisation, la société qui a commencé à avoir de l'argent à dépenser, puis que c'était finalement plus juste pour du pain, les études, puis s'habiller. Là, finalement, on pouvait acheter plein d'affaires qu'on oublie qu'on achète puis qu'on dépense pour rien. Mais les achats compulsifs font partie du chapitre des troubles de la personnalité et du comportement. Ça peut avoir des conséquences désastreuses, disent les experts. Ah oui, nous sommes surpris de ça. Mais ils font même des petites remarques à ceux qui sont, tu sais, dans les files d'attente, là, puis ils se font avoir par tout ce qui est cochonnerie à vendre sur les côtés. Puis on dit, ah, ça coûte rien, ça, je vais le faire. Puis finalement, ils se remplissent un genre de panier, là. Ça peut être semblable, les crises d'oniomane ou de l'oniomanie, à une crise de boulimie. Tu sais, sur le moment, là, les personnes sont incapables de prendre de la distance avec ce qu'ils sont en train de faire ou encore de porter un jugement qui est critique sur leur agissement. Puis ils achètent. Fascinant, ça. 6 à 7 % de cas dans le monde, sur les gens dans le monde en général. Moi, ça... ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un à l'écoute qui n'osera pas le dire, mais qui en fait partie de cette gang-là de Newman, qui dépense. Mais je pense qu'avec l'arrivée d'Amazon aussi, on a perdu un certain contact avec l'argent papier où on voyait qu'il diminuait dans notre main auparavant. Tout ce qui est aussi arrivé de carte de crédit, ça va vite, hein? Peut-être une coupe de Newman qu'on a poussé au désastre avec tout ça. Si c'est votre cas, retenez-vous, on est avec vous. Il n'y a rien à dépenser en ce moment. Il y a tout à écouter. Boulevard 102.1, c'est gratuit. Jérôme 50 aussi avec les ramasseux de canettes. Voyons, tu sais, la toune qui vient avec. Bon, ramassez peut-être les canettes pour payer ce que vous avez acheté, mais achetez pas d'autres choses ou cochonneries avec. Mais c'est gratuit, Boulevard 102.1, heureusement. C'est déjà tout pour cette semaine en ce 22 mars. Je vous souhaite un magnifique week-end. C'est tout ce que vous méritez. En même temps, on se retrouve dans quelques instants parce que mon fidèle complice Yannick Marceau s'en vient pour Marceau le midi. Un beau vendredi avec nos chroniqueurs collaborateurs habituels et bien sûr Thomas Gauthier. J'avais envie de finir l'émission avec la bonne nouvelle de la semaine. Je sais, c'est pas tout le monde qui est content. Je sais que ça va faire mal à ceux qui cherchent encore une passe pour aller au Festival d'été de Québec. Mais ça reste que c'est cette semaine qu'on a appris qu'est-ce qui va venir performer sur les plaines d'Abraham. Puis c'est un beau bonheur. On est bien fiers à Québec. Donc, on se laisse sur le montage de Tommy Fontaine, mon collègue fort estimé ici à Boulevard 102.1, qui vous a fait ça. Et après, ce sera Indochine, ça va le rouge. Puis après, ben Marceau est en studio.
La programmation du Festival d'été...
On a vraiment hâte. Hey, à tout de suite, on a aussi hâte de voir Marceau. Hein? Savoure le rouge d'Indochine, ça va vous rappeler un peu votre adolescence, selon certains auditeurs.